France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences, Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la marche des sciences. Alors que nous commémorons cette année les 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl, survenue le 26 avril 1986, toutes les émissions sciences de la tranche Culture Science se sont unies pour vous proposer une semaine spéciale sciences et catastrophes, thème couvert tous les jours depuis lundi, de 16h à 17h sur nos antennes.
Ils ont dit, bon, en cas d'accident, donc on a 24 heures à partir du moment où l'accident se déclare, on va prévenir le préfet et vous pourrez prendre votre petite pastille d'iode que vous aurez à la portée de la main en écoutant la radio. En gros, c'est le résumé et tout ira bien. Hein, on peut dire que c'est ça.
Alors, nous devons nous calfeutrer à la maison en cas d'alerte. Donc, le nuage va passer et au bout de 24 heures, nous allons pouvoir sortir sans que rien ne soit changé. Alors forcément, on s'interroge.
Tchernobyl, 30 ans déjà, une catastrophe qui a marqué un temps dans l'histoire du nucléaire et de la notion du risque et suscité quelques inquiétudes, comme auprès de ses habitants de La Hague, par exemple, interrogé par Arnaud Laporte en novembre 1997 pour France Culture. La Hague, paysage tranquille de bord de mer, aujourd'hui synonyme de centrale nucléaire, où peu de temps avant Tchernobyl, une jeune ethnologue, Françoise Zonaben, décida de s'y établir pour en faire son terrain d'étude. Un choix fait contre l'avis de son responsable de laboratoire et sans réaliser alors l'enjeu des travaux de recherche qu'elle allait y mener. Du nucléaire, vous ne vous occupez pas, lui intima-t-on. Du nucléaire, elle s'occupa. Contre vents et marées et ses travaux de recherche menés pendant plus de 5 ans en immersion au cœur de la population locale, lui permit d'analyser et de mieux comprendre les relations que l'homme entretient avec un environnement dit dangereux. Silence, occultation, déni, non-dit, ruse langagière. Retour sur cette enquête inédite, 30 ans après Tchernobyl et 5 ans après Fukushima, pour prendre la mesure du silence qui règne en ces lieux de vie à haut risque. Face au silence du nucléaire, Françoise Zonaben, une ethnologue à La Hague, c'est le sujet du jour dans la marche des sciences sur France Culture avec Françoise Zonaben, justement, ethnologue, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du laboratoire d'anthropologie sociale et auteur notamment du livre « La presqu'île au nucléaire » édité chez Odile Jacob. Et comme d'habitude, cette première partie d'émission sera émaillée d'archives sonores de l'INA grâce à Anaï Morales. Et puis, en seconde partie d'émission, vers 16h45, nous poursuivrons notre thématique consacrée au nucléaire et nous serons en liaison téléphonique avec la chercheuse Christelle Adam-Guillermin. Elle est directrice du laboratoire d'écotoxicologie des radionucléides de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à Cadarache. Donc, regard jeté avec elle, bien sûr, sur les conséquences du nucléaire sur le monde du vivant, animal et végétal, après Tchernobyl et Fukushima. Mais tout de suite, face au silence du nucléaire, Françoise Zonaben, une ethnologue à La Hague, 30 ans après.
L'accident de la centrale de Tchernobyl s'est produit vraisemblablement en samedi après-midi. Les victimes seraient nombreuses. Mais évidemment, faute d'indications supplémentaires, les spécialistes en sont réduits aux hypothèses. Un expert ouest-allemand a constaté un fort taux de radioactivité en Scandinavie, donc à 1500 km de la centrale de Tchernobyl, ce qui donne une idée de la radioactivité sur le lieu même de l'accident dans une région très habitée. En France, aucune radioactivité particulière n'a pour le moment été mesurée. De Moscou, l'envoyé permanent de l'agence France Presse.
Un accident a endommagé un des réacteurs atomiques d'une centrale nucléaire soviétique. La nouvelle est d'autant plus exceptionnelle et sans doute d'une certaine gravité qu'elle a été annoncée par l'agence TASS et reprise immédiatement dans le journal télévisé. Le communiqué est signé du Conseil des ministres de l'URSS. L'Union soviétique n'évoque en général qu'avec réticence et beaucoup de retard les accidents et catastrophes, pourtant le lot de tous les pays. Il y a des victimes, précise l'agence officielle soviétique, en notant qu'elles sont soignées, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit pour l'heure que de blessés. Des mesures sont prises pour éliminer les conséquences de l'accident, ajoutent, dans leur style laconique, les médias soviétiques. Cette centrale nucléaire de Tchernobyl est située en Ukraine, dans la région très peuplée de Kiev. Ces trois tranches datent de moins de 10 ans et avaient été inaugurées avec fierté. L'agence de presse Novosti, dans un article publié en 1979, titrait « La centrale atomique de Tchernobyl, aucune raison de s'inquiéter ». Pierre Lesourd, Moscou, pour AFP Audio.
Bonjour Françoise Ounaben.
Bonjour.
Alors on vient d'entendre un extrait de Interactualité du 29 avril 1986. Alors la date de Tchernobyl c'est 26 avril 1986, donc là 3 jours après on en parlait sur les antennes de la radiodiffusion française. Vous en souvenez-vous précisément ?
Oui, j'étais à La Hague quand Tchernobyl s'est produit et je m'en souviens, ou plutôt je me souviens du silence qu'il y a eu autour de moi. On n'en a pas parlé. Enfin, après, c'est vrai que mes interlocuteurs avec lesquels je travaillais, puisque je n'avais pas encore publié mon livre et que j'étais donc tout à fait en plein dans cette recherche, les langues se sont déliées. On a parlé. Et on a parlé, pourquoi ? Et j'ai compris qu'effectivement, cette catastrophe lointaine, c'est très loin, Kiev, enfin vraiment, c'est... Eh bien, elle permettait de parler d'une catastrophe nucléaire, mais qui était arrivée ailleurs, très loin. Et donc, voilà. Et puis, en plus, bon, c'était chez des étrangers, chez les Russes, et on savait que il n'y avait pas de transparence, qu'il n'y avait absolument aucune façon de discuter avec les employés des centrales soviétiques, puisque c'était soviétique à l'époque. Eh bien, donc, ils se sont dit, vous voyez, ça s'est produit là-bas et ça devait se produire là-bas, mais chez nous, on craint rien.
Alors vous, à ce moment-là, vous êtes effectivement sur ce terrain avec une enquête pionnière, hein, d'ailleurs, que vous avez initiée. Une enquête suivie d'ailleurs d'un livre publié en 1989 et réédité, là, il y a moins d'un an, avec ce message que vous nous délivrez aujourd'hui. Comment éviter d'autres catastrophes à La Hague ou ailleurs, après Tchernobyl et Fukushima, alors que le déni du risque règne toujours. Donc on va en parler avec vous aujourd'hui, bien sûr. Mais vous aviez donc ce besoin, Françoise Ounaben, de revenir sur votre expérience qui fut mal perçu hein, localement, car le message que vous donniez alors peut-être pouvait être difficilement entendu, c'est ça ?
Oui, il était. Je m'en suis rendu compte effectivement quand j'ai restitué mon travail localement que ce que je faisais ne pouvait pas être entendu parce que je parlais de la seule chose dont les riverains de ces établissements à haut risque ou les travailleurs de ces établissements ne voulaient pas entendre parler, c'était du nucléaire. Ils y travaillaient, ils étaient dedans ou à côté, mais ils ne voulaient pas qu'on en parle. Parce que une façon, justement, une stratégie en quelque sorte défensive pour pouvoir vivre à côté de ces établissements à haut risque, ben, c'est de n'en pas parler, de ne pas les voir, comme par hasard, il y a une sorte de, comme ça, on se tourne toujours de l'autre côté en disant, vous voyez, ici, on voit rien, ou bien, je ne crains rien parce que les vents sont contraires. Donc, il y a un déni, à la fois météorologique, paysager, mais aussi langagier, qui fait que on vit ici avec le nucléaire, mais on n'en parle pas.
Parce que sinon, on pourrait peut-être pas y vivre, alors. Première question, pourquoi La Hague, Françoise Ounaben ? Et je rappelle donc qu'il vous a fallu quand même lutter aussi contre vos propres responsables du laboratoire d'anthropologie sociale de l'école des hautes études en sciences sociales, hein, puisque le responsable vous avait dit, du nucléaire, vous ne vous occupez pas.
Mais parce que les anthropologues, d'abord déjà j'étais un petit peu particulière parce que je travaillais dans ma propre société, ce qui pose... encore un problème. On sait bien que les ethnologues vont très loin, généralement.
Oui, sur des terrains exotiques, en fait.
Hein. Et l'exotique étant la méthode pour mieux voir ce qui s'y passe. Alors, non seulement... Et puis, en plus, normalement, disons que les objets traditionnels de l'anthropologie, c'est la parenté, c'est le rituel, c'est les différences entre les clans, les différentes façons de nommer les ethnies, etc. Mais pas la modernité. Et effectivement, il y avait quelque chose qui m'a frappée. Je pensais qu'en tant qu'ethnologue, je pouvais, quand je me suis installée à La Hague pour y travailler, c'était pas du tout pour travailler sur le nucléaire, je voulais travailler sur des objets tout à fait traditionnels dont j'avais déjà travaillé ailleurs. Mais je me suis aperçue, et moi-même j'ai été prise dans ce déni du nucléaire, puisque personne, quand j'étais à La Hague, personne m'en parlait. Mais quand je revenais à Paris et que je disais, on me demandait mais d'où tu reviens, je disais je suis allée à La Hague et on me regardait, on me disait mais t'es pas contagieuse. Et donc c'est en m'apercevant de ça et en m'interrogeant pourquoi moi qui vais là-bas, je ne vois rien, je n'entends rien, et alors que quand je reviens plus loin, tout d'un coup le nucléaire redevient la question centrale en quelque sorte. Et donc j'ai pensé que, en tant qu'ethnologue, je ne pouvais pas passer à côté de ce déni d'établissements qui sont là, du silence qui régnait à La Hague. Et effectivement, ce sont des objets sur lesquels les anthropologues n'ont pas l'habitude de travailler. Donc il m'a fallu en quelque sorte
inventer déjà.
Oui, inventer.
Créer l'objet, la méthode, les outils.
Oui, mais en quelque sorte, non, je me suis accrochée justement à la méthode anthropologique. Je me dis, bon, il faut que je m'installe là-bas. Il faut que je parle avec les gens, aussi bien ceux qui travaillent à l'intérieur que ceux qui vivent alentour. Donc, je me suis installée chez des gens qui vivaient alentour et j'ai partagé avec eux leur quotidien pour savoir comment le nucléaire était parlé dans ce quotidien, dans la routine, en quelque sorte. Et puis, j'ai essayé aussi d'entrer dans l'usine. Alors, j'ai travaillé essentiellement à La Hague, où il y a beaucoup de nucléaire. Il y a la centrale de Flamanville, il y a l'usine de retraitement des déchets nucléaires, il y a l'Andra, qui est le lieu de dépôt des éléments radioactifs qui sont de moyenne activité.
Il y a l'arsenal.
L'arsenal, où il y avait autrefois les sous-marins à propulsion nucléaire. Maintenant, ils sont plus là, mais enfin, il y a d'autres. Il reste encore quelques ogives nucléaires à l'arsenal. Donc, voilà, c'était un lieu où le nucléaire était omniprésent. Il avait, c'était l'économie qui faisait marcher toute la région de La Hague. C'était le poumon économique de La Hague. Et bien évidemment, je me suis dit qu'en tant que chercheur, je ne pouvais pas passer à côté de ça.
Alors, vous parlez de ce poumon économique. Je vous propose de faire un retour en arrière. Le 8 juin 1965, c'était sur les antennes de l'ORTF, dans l'émission Grandes Enquêtes. Vous allez entendre Monsieur Broussard, qui était le directeur du centre atomique de La Hague de l'époque, suivi du témoignage de Paul Gosselin, conseiller général de la Manche, agriculteur de la région.
Le centre de La Hague est donc essentiellement une usine de traitement chimique qui reçoit l'uranium irradié dans des châteaux de plomb d'un poids d'environ 55 tonnes, ces châteaux de plomb étant immergés dans une piscine de stockage. À partir de cette piscine, nous avons des opérations de mécanique qui ont pour but de séparer l'uranium de son enveloppe de magnésium-zirconium et ensuite un traitement chimique qui aura pour but de séparer le plutonium des autres matériaux. Ce plutonium sera livré sous forme de lingots de poids d'environ 1 kg.
Votre usine entrera en activité à la fin de l'année prochaine. Combien emploiera-t-elle d'ouvriers? Combien y aura-t-il de personnel dans cette usine?
Le personnel de l'usine proprement dite est évalué à environ 1000 agents, dont 60 ingénieurs.
Est-ce qu'il y aura des gens de la région qui travailleront?
Nous avons fait appel au recrutement local dans une proportion d'environ 30%.
Au début, il était dit pas mal de choses, mais des bruits qui étaient plus ou moins fondés, certainement.
Et ensuite, on vous a expliqué, à vous, les agriculteurs de la région, qu'il n'y avait pas de danger.
Bien sûr. Et ce qui a aidé aussi, c'est que le commissariat à l'énergie atomique nous avait invités à faire un voyage à Marcoul, qui est une usine identique. Et nous avons pu nous rendre compte, là, on discutait avec les représentants, les maires des communes intéressées, avec le conseiller général de la région aussi, et nous avons pu nous rendre compte de comment cela fonctionnait là-bas et ce que les gens avaient pu se constater aussi chez eux. Par exemple, on a dit que autour des usines atomiques, que rien ne poussait. Au contraire, là-bas, il en avait profité pour écouler leur vin. Enfin, ce ne sera pas le cas dans notre région. On ne vendra certainement pas le beurre plus cher par ici, mais enfin, malgré tout, il y a un écoulement plus important peut-être aussi. Parce qu'il va y avoir plus de monde dans la région.
Ça, c'est votre point de vue. Mais est-ce que vous avez l'impression que les jeunes s'intéressent à cette ère atomique qui commence pour eux? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils pensent déjà à une reconversion?
Oui, certains pensent déjà à se reconvertir. Ils se dirigent vers une formation spéciale pour pouvoir occuper des postes à cette usine plus tard.
Une réaction, Françoise Onabène. Alors, il faut rappeler que les habitants du coin apprennent en 1962 l'implantation d'une usine à La Hague. Et ce n'est pas dans leur culture de contester, d'ailleurs. Et d'ailleurs, comme même vous arrivez sur le terrain, il y a pas beaucoup de contestations. Hein. Il y a eu Cresse-Malville en juillet 77, mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus dans cette façon de s'opposer. Ce qu'on sent à travers ce document, cette archive sonore, c'est aussi cette promesse d'emploi et puis de modernité. Alors, le rôle des maires, des curés, ont vraiment exercé leur pouvoir sur la population.
Ce sont effectivement les notables de la région qui ont pris en main cette manne qui leur tombait comme ça, sans qu'ils sachent vraiment ce qu'était le nucléaire et le type d'usine, parce qu'une usine chimique, qu'est-ce que ça veut dire, et le plutonium, l'uranium. Enfin bon, vous voyez, il y a toute une sorte comme ça de... On leur a donné le minimum d'informations, et on les a emmenés voir d'autres maires, donc des collègues qui, eux, bien sûr, ne pouvaient dire que, puisqu'ils avaient accepté, eux, d'avoir ces installations-là chez eux, oui, il faut que les autres aussi acceptent. Donc, il y a là tout un processus. Alors, on a emmené les maires, après on a emmené les curés de toutes les paroisses. Mmh. Et d'ailleurs, dans le bulletin paroissial, le curé a écrit, vous savez, oui, n'ayez pas peur de ce qui se passe, et vous allez entrer bientôt, on va pouvoir construire une cathédrale sur la lande, parce que il y aura tellement de monde qu'on ne saura plus.
C'est ça, l'ère de la prospérité, de la modernité, et puis rachat des terres à bon prix. Hein. Donc ça a pu jouer aussi à une époque où l'économie ne se portait pas si bien.
Oui, surtout. En plus, la Hague, c'est quand même une des régions les moins fertiles du Cotentin. C'est un plateau sur lequel pousse une herbe très rase et qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Enfin bon, on peut faire un peu d'élevage, effectivement. Et c'est l'endroit où il y avait des moutons, où il y avait des chevaux sauvages encore. Enfin bon, il y a des tas de choses comme ça. Mais effectivement, ce n'est pas une agriculture moderne telle qu'il fallait avec les nouvelles lois de la communauté européenne faire un bond tout à fait important que les... En plus, les terrains étaient trop dispersés. Et puis, donc... Il se sentait comme ça pris en quelque sorte au piège de... Il voulait pas quitter la région. Mais qu'y faire? L'arsenal fermait, puisqu'il n'y avait plus vraiment de chantier naval. Il n'y avait plus d'autres industries. Se présente tout d'un coup cette industrie qui allait pouvoir embaucher. Donc, bien entendu, il n'y a eu ni référendum public, ni débat public, ni quoi que ce soit. C'était pas l'époque. Plus tard, ça se passera autrement. Mais à l'époque, en 1960, le nucléaire était accepté partout.
Et puis on présente bien sûr tout ça ultra sécurisé. Hein. C'est vrai que tout fait l'objet d'analyses, de prélèvements. L'air, l'eau, la mer, la faune, la flore, le lait des vaches, la chair des mollusques. Mais je propose d'écouter quand même ce témoignage, parce qu'on sent ce silence dont vous parlez du nucléaire. C'est-à-dire on dit des choses, mais on les dit et puis on y revient un petit peu. Vous allez écouter le témoignage de Martine Auger et Bernard Dumont, des habitants qui avaient donc au micro de Arnoux Laporte pour changement de décor le 13 novembre 1997, confier leurs sentiments.
Oui, on s'est posé la question pendant 2 ou 3 ans. On reste ou on reste pas. Moi, je ne vais plus pêcher.
Ouais, ben là.
Oui, mais on continue à se poser des questions. Oui, mais moi, je l'étais.
Je
ramassais les bigorneaux quand j'étais gamine, on les mangeait. Enfin, c'est pas pour ça que je suis malade, mais je ramasse plus, quoi. J'irai pas manger des bigorneaux que j'ai ramassés au moulinet, quoi.
Bah oui, c'est comme on va pas pêcher à la sortie des égouts, quoi. Ça, c'est...
Oui, mais bon, il y a des gens du coin qui vont dire, oh bah si, qui vont faire dire le contraire, non.
Ouais, mais je pense que c'est pareil, ça change aussi. Mais notre problème, c'est que les gens, C'est vrai que c'est très difficile de se faire une idée quoi, sur le sujet. Hein.
Françoise Onaben, tout à l'heure je disais que vous aviez dû créer l'objet, mais parce que l'objet risque n'existait pas encore. Et donc vous avez été confrontée face à toutes ces interviews. Vous avez fait plus de 150 interviews. Donc la parole par exemple de Martine et Bernard qu'on vient d'entendre, vous avez dû l'entendre avec cette rhétorique, les silences, les non-dits, les bévues, les lapsus, les expressions péremptoires. Parfois tous ces jeux, voire toutes ces ruses de langage, il faut pouvoir traduire ce qui se passe derrière, ce que les gens ont vraiment dans la tête.
Oui, ben ça c'est le travail de l'ethnologue, si vous voulez. C'est que on n'est pas là pour simplement rendre compte de ce qu'ils nous disent. On est là pour travailler sur leurs mots, derrière leurs mots ou au-delà de leurs mots. C'est-à-dire que notre travail consiste justement d'abord à mettre en relation un certain nombre d'entretiens, de voir comment ça se passe, etc. Et puis après, d'essayer de montrer à travers tous ces témoignages qu'on a, quelles représentations ils se font, donc d'essayer d'arriver à des sortes de généralités en quelque sorte. On n'est pas là pour simplement rapporter des cas particuliers ou donner la parole à quelqu'un et ne pas travailler sur cette parole. Et c'est effectivement en travaillant sur cette parole, à la fois des gens qui vivent autour, des voisins de ces établissements, mais surtout des travailleurs qui sont à l'intérieur de l'usine, que j'ai pu comprendre toute la façon dont ils vont user de ce langage et de leurs mots pour cacher, pour ne pas dire, ou pour ne pas répondre à mes questions. Donc le silence aussi avait un sens. Et donc c'est en travaillant sur leur discours, en prenant en compte toutes les formes discursives qu'ils me donnaient en quelque sorte en réponse à mes questions, que j'ai pu comprendre comment eux-mêmes avaient mis en place tout un discours et tout un ensemble de stratégies défensives, oui, pour vivre autour de ces établissements sans trop de souffrance.
Faire écran face au risque.
Exactement, faire écran face au risque. Et en fin de compte, ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe. Il s'agit pas de leur dire, ils savent très bien ce qu'est le nucléaire. Faut pas croire que ces gens ne sont pas au courant. Mais la seule façon qu'ils ont de vivre avec, c'est au fond d'en parler le moins possible et de faire confiance à ceux qui sont là en charge de leur sécurité. Alors peu à peu, bien sûr, c'est mis en place. Au début, ils faisaient confiance à la hiérarchie des établissements, de l'usine, etc. Et puis peu à peu, surtout après Tchernobyl, s'est mis en place un certain nombre d'associations civiques qui ont pris en charge de pouvoir eux aussi donner des résultats, de faire des ponctions dans les rivières, dans le lait des vaches, etc., de contrôler en quelque sorte ce que les experts officiels donnaient à la population. Et je crois que c'est ça qui est très important, et c'est ça que Tchernobyl a déclenché en quelque sorte à La Hague, a déclenché la mise en place de contre-pouvoirs.
Oui, qui n'existait pas au moment où vous menez l'enquête.
Qui n'existait pas au moment... ils existaient plus dans le sud de la France, parce que ça fait plus longtemps qu'autour de Cadarache et tout ça, il y avait ces établissements nucléaires. Mais à La Hague, c'était pas non plus leur façon d'être, leur façon de réagir.
Non, ils n'ont pas une culture de la contestation, non. Vous l'avez senti. Et puis même déjà, être en contact avec les étrangers,
déjà,
comme ils disent.
Oui, c'est... Bon,
c'était
les orsins,
pas facile.
C'est pas facile. Mais il y a quand même eu, l'usine de retraitement des déchets nucléaires, elle s'est installée sans qu'il y ait trop de manifestations hostiles ou quoi que ce soit. Mais Flamanville, oui, il y a eu de grandes manifestations contre Flamanville. Mmh. Mais enfin, bon, c'était un peu plus tard et déjà on savait ce qu'il pouvait se passer avec le nucléaire beaucoup plus clairement, en quelque sorte.
Alors vous avez donc travaillé aux côtés des populations environnantes et puis du côté des travailleurs de la centrale. Je vous propose de retrouver justement Martine Auger et Bernard Dumont, en précisant que donc Martine Auger est du coin et que son compagnon Bernard Dumont, un Parisien venu il y a quelques années à La Hague et donc qui travaille dans l'usine, et vous allez les entendre. Donc c'est toujours ce document du 13 novembre 1997, changement de décor.
Je me suis toujours posé des questions sur le nucléaire, mais qu'on y travaille ou qu'on n'y travaille pas. Et en plus, bon, depuis que Bernard y travaille, j'en sais plus, quoi. Enfin, pour moi, je pense qu'il y a des trucs qui se passent là-bas, que les gens ne sont pas au courant, que Bernard en sait un peu plus, et que...
Non, mais c'est pas ça. Je pense que présenté comme ça, ça peut... Enfin, je veux dire, ça peut laisser supposer que... aux gens qui aient vraiment des trucs qui soient cachés particulièrement. Non, je crois
qu'il n'y a pas que toi aussi. Moi, j'ai des amis comme Agnès qui travaillait à la blanchisserie. Là. Mm. Bon, elle, il travaillait avant Bernard. Et pour moi, il y avait des choses là-bas qui n'étaient pas sérieux. Quoi. Les gens qui travaillaient avec elle, normalement, devaient se contrôler régulièrement en sortant. Et il y en a qui ne le faisaient pas. Il y a plein de trucs qui me paraissent pas sérieux là-haut. Quoi.
C'est pareil, une fois de plus, faut faire la différence entre le comportement des gens et puis ce qu'on doit faire, quoi, aussi. Hein. Enfin, je veux dire, je crois qu'il y a une grande attention qui est quand même portée sur la sécurité.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Alors Françoise Zonaben, vous retrouvez ces mêmes paroles finalement 10 ans après, parce que vous étiez dans ces années 80, là c'est un témoignage de 1997.
Oui, c'est-à-dire d'une part la difficulté à se parler entre soi, entre mari et femme, même on sent très bien que c'est pas un sujet de conversation courant et que sans doute elle a des interrogations auxquelles son mari ne répond pas, etc., et qu'il ne souhaite pas répondre. Oui, c'est quelque chose dont on ne parle pas, effectivement. Mais c'est vrai, encore une fois, il y a quelque chose qui est là de l'ordre de la mise en place d'une sorte de besoin d'abord de se rassurer et d'être confiant. Il faut quand même faire confiance aux autres. Et donc, on va constamment trouver, en quelque sorte... Des boucs émissaires. On va dire, il y a toujours des gens qui sont pas bien. Ces gens-là, c'est qui? C'est les intérimaires. Où sont les femmes? Parce qu'il y a des femmes qui travaillent aussi. Les femmes sont pas capables, etc. Donc, il y a toujours quelque chose qui va dire, moi, je me prends en charge. Moi qui travaille à l'usine, je ne fais aucune faute et je prends garde à ma sécurité le mieux possible. Mais il y a toujours les autres sur lesquels il faut quand même peut-être qu'il y en a qui ne prennent pas les mêmes soins que moi.
Oui, et alors en même temps, on se rend compte que sur place, la population va visiter l'usine, hein, comme pour exorciser le mal, on peut dire ça?
Oui, bien sûr. L'usine est un des lieux les plus fréquentés dans le nord Cotentin. Je crois qu'il est. C'est un lieu qui est aussi fréquenté que le Mont-Saint-Michel. Donc,
ce ne sont pas les mêmes journées du patrimoine qu'on peut vivre là-bas, j'imagine. Non. Mais oui, ça attire du monde. Hein.
Oui, c'est vrai, parce que les gens d'abord sont intéressés par cette mise en place. C'est quand même des hectares et des hectares. C'est une lande entière qui est prise avec des bâtiments un peu bizarres, des cheminées torsadées. Il y a beaucoup de bâtiments avec des grillages, il y a des tas de choses. Donc, c'est quand même très attirant. C'est pas comme les centrales nucléaires avec les grandes cheminées, ça c'est autre chose. Mais l'usine de La Hague, justement avec tous ces bâtiments, tous ces lieux, on récolte là quand même le plutonium qui permet de faire la bombe atomique, etc. Donc il y a quelque chose d'attirant dans ces usines, dans ces établissements, qui fait que on va la visiter. Et non seulement on va la visiter, et les gens d'alentour aussi, ils vont. Enfin, les maires, par exemple, de toutes les communes, ils vont chaque année, on leur dit, voilà ce qui se passe à l'usine, voilà ce qu'on fait, et voilà, toutes les précautions sont prises. Donc, vous voyez, par l'intermédiaire de leur maire aussi, ils sont tenus au courant que là-haut, il se passe des choses, on travaille, tout ça va continuer, et en même temps, toutes les précautions sont prises, la sûreté est prise en compte, et tout va bien se passer. Donc, essayez de dormir tranquille, puisque nous, on veille sur vous.
Alors, quand vous étiez sur place entre 1983 et 1988, hein, c'est ça à peu près?
88, 89.
Oui, 89. Est-ce qu'il y a eu des accidents?
Il y a eu des incidents. Il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas d'accident jusqu'à aujourd'hui même à Tchernobyl,
À
La Hague. Mais des incidents, il y en a tout le temps. Il y a effectivement le fait que il y a une petite fuite qui s'est produite dans tel atelier et qu'on a colmaté, etc. Chaque semaine, il y a un communiqué dans la presse locale pour dire ce qui s'est passé à l'usine et pour rassurer tout le monde. Bien sûr, il y a eu un petit incident sur dans tel atelier, mais c'est pas très grave et on a la situation est
sous contrôle.
Sous contrôle. Mmh. Il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, il n'y a pas eu
de drame majeur.
Mais le problème qui se pose, c'est justement dans ces lieux, il n'y a pas de drame majeur, mais il y a quand même cette radioactivité qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Est-ce qu'elle pourrait pas nous pénétrer d'une façon ou d'une autre? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc il y a tout un ensemble de questions qu'on a derrière la tête, en quelque sorte, et que ce soit les travailleurs de l'usine ou les gens qui sont alentours, qui se disent « Est-ce que je prends des doses ?» Et jusqu'où je peux prendre des doses? Jusqu'à quel moment une dose devient importante et qu'on doit s'en préoccuper, etc.
C'est pour ça que dans votre livre, d'ailleurs, vous faites la part des choses entre eux. Alors, il y a ceux qui travaillent sur zone, mais il y a les kamikazes, les rentiers, donc ils n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes contrôles, les risques calculés, etc. On n'aura pas le temps de rentrer dans tout ce détail, mais c'est vrai que vous l'exprimez très bien avec cette notion de dose. Je vous propose d'écouter à nouveau un document sonore, puisque c'est la force de ces archives qui nous ramènent dans l'histoire, mais qui nous interpellent sur aujourd'hui. C'était intéressant. Actualité, le 15 septembre 1978.
Il y a eu un accident la semaine dernière à la centrale nucléaire de La Hague, près de Cherbourg, vendredi dernier, très exactement, mais nous n'avons appris cet accident qu'aujourd'hui, ce qui en dit long sur la sensibilité de tout ce qui touche au nucléaire. 8 agents donc de cette usine atomique ont été contaminés, 3 d'entre eux seraient même particulièrement atteints. Pour le moment, il faut être très prudent, une seule chose est sûre, à l'origine de l'accident, il y a une erreur de manipulation. Mais d'après les syndicats, il y aurait également une faille dans les mesures de sécurité. Notre correspondant permanent en Normandie, Hervé Debois, a mené l'enquête.
Selon la direction de l'usine de La Hague, les employés ont commis une faute professionnelle très grave, puisqu'au moment de la fuite de plutonium, ils ne portaient pas leur masque, pourtant obligatoire. Ils ont donc respiré de l'oxyde de plutonium sans le savoir, produit hautement dangereux qui se loge dans les alvéoles des poumons d'une façon irréversible et qui risque de provoquer directement des cancers. L'état de santé de 3 d'entre eux est d'ailleurs jugé sérieux par les médecins du centre, mais on ne connaîtra en fait leur bilan que vendredi. La CFDT admet la faute professionnelle des agents. Sur ce point, dit-elle, ils sont indéfendables. Mais toujours, selon le syndicat, la direction n'est pas blanche dans cette affaire. Il faut savoir que l'accident s'est produit dans un atelier pilote, où sont notamment traités les combustibles en provenance des surrégénérateurs Phoenix et Rhapsody. Or, cet atelier n'est même pas équipé d'appareils de contrôle de la contamination ambiante. De plus, il y a bien eu défaillance technique puisque l'on a constaté une rupture de l'étanchéité des cartouches qui contenaient le plutonium. La CFDT accuse la vétusté des installations dont certaines datent de 10 ans dans un moment où La Hague doit faire face à de très gros contrats passés récemment avec les Allemands et les Japonais.
Thank you.
La nuit transfigurée, choix de notre invitée Françoise Zonaben. Donc, vous avez fait ce choix spécifiquement?
Parce que quand je travaillais à la Hague, j'allais très souvent voir le soir l'usine qui s'illuminait sur le plateau. C'est un endroit extrêmement beau, la Hague. Il y a comme une sorte de correspondance entre la mer au loin, où les paquebots passaient aussi illuminés, et puis la lande illuminée par l'usine. Et j'ai trouvé que la nuit transfigurée avait quelque chose à la fois de doux et en même temps de dramatique, et que ça correspondait exactement à la situation où j'avais l'impression de me sentir comme ça sur ce plateau. Et je me disais, effectivement, c'est l'endroit, un des endroits les plus beaux de France, et on y a mis une usine qui, au fond, est très belle là où elle est.
Alors justement, ça nous donne l'occasion, dans la marge des sciences, de revenir sur votre expérience riche d'enseignements et relatée dans votre livre « La presqu'île au nucléaire », justement réédité chez Odile Jacob, La Hague, usine de retraitement des déchets qui a souvent fait parler d'elle.
La COGEMA, qui gère l'usine de retraitement nucléaire de La Hague, et Greenpeace sont à nouveau en bisbille. L'organisation écologiste a repéré pendant le week-end deux fûts suspects au fond de la mer, à 250 mètres d'une plage. Les militants de Greenpeace affirment que les fûts sont dangereux. La COGEMA répond qu'ils ne sont pas irradiants et qu'ils ne contiennent que des outils qui ont servi à détartrer la fameuse canalisation qui part de l'usine de retraitement des déchets nucléaires. La COGEMA dit peut-être la vérité. Le problème, Nathalie Fontrelle, c'est que plus personne ne fait confiance à cette entreprise qui s'est fait une spécialité du secret et de la non-communication.
En fait, depuis l'accident de Tchernobyl, on reconnaît que le risque nucléaire existe et l'on est passé de la culture du secret à celle de la communication. Partout, sauf à La Hague. La COGEMA attend effectivement systématiquement que l'on mette le doigt là où ça fait mal pour réagir et éventuellement expliquer. Décembre 95, le professeur Vielle publie une étude épidémiologique montrant un excès de leucémie infantile à La Hague. La COGEMA réagit par le mépris. Depuis, on a décidé d'établir un registre des cancers, mais les résultats ne seront exploitables que dans 10 ans. Autre exemple, mars 97, des dizaines de pêcheurs à pied attendent la grande marée. Greenpeace aussi. Les écologistes savent que lorsque la mer va se retirer, la conduite d'évacuation des rejets radioactifs va se retrouver au sec. La COGEMA le sait aussi. Elle aurait pu décider de fermer le robinet pour éviter une trop forte concentration de la radioactivité. Elle ne l'a pas fait. Et aux écologistes qui dénoncent une hausse logique de la radioactivité, la COGEMA répond que cela n'est pas dangereux pour la santé. Mais à force de ne pas communiquer, de ne pas expliquer, la COGEMA est systématiquement soupçonnée de mensonges. Dernier exemple, ces fûts repérés par Greenpeace et dont on nous dira dans quelques heures ou dans quelques jours, qu'ils sont tout à fait innocents.
Une réaction peut-être, Françoise Zonaben. Je rappelle que vous aussi, vous avez été en contact avec les directions de l'époque. Votre livre a été très mal reçu. Vous étiez persona non grata, on peut dire, oui. Là-bas. Mmh. Et d'ailleurs, vous aviez aussi réalisé un film, La Hague, le nucléaire au quotidien, en 1992 avec Paul Zadermann, et diffusé sur France 3 et Canal+.
Et ça a été très mal reçu aussi. Mais d'abord, je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire. C'est que nous étions des femmes. Et qu'en tant que femme, je me suis rendu compte, effectivement, que si mon livre posait encore plus de problèmes, c'est que j'étais une femme, que j'étais chercheur en quoi ? Sciences humaines, mais sciences humaines, c'est pas technique.
C'est pas de la science.
C'est pas de la science. Donc, d'où est-ce que je parle ? De quel droit je m'octroie le pouvoir de dire quelque chose? En quoi ma recherche que j'ai faite vaut quelque chose, en quelque sorte? Car effectivement, il y a des soupçons de penser que soit vous êtes anti-nucléaire, et donc, évidemment, vous êtes militante, et donc vous prenez parti contre l'usine. Soit vous êtes pro-nucléaire, et ce que je raconte, c'est pas possible, puisque je remets en cause tout un ensemble de façons de travailler à l'usine. Je montre que dans cette usine, malgré la robotisation, l'informatisation, etc., il y a quand même une sorte de jeu qui peut se mettre en place au travers des mots, simplement. Pour que simplement les techniciens fassent leur cet outil de travail qui est quand même extrêmement dur. C'est pas facile de travailler toujours devant des écrans ou bien d'être envoyé en zone contaminée pour y travailler pendant 3 minutes et pas plus parce que après vous prenez trop de doses, etc. Donc c'est vraiment des métiers difficiles. Et donc, ils ont mis en place tout un ensemble de mots, de façons de faire, de façons de dire, pour simplement se réapproprier leur outil de travail. Et j'ai montré toute la symbolique qui pouvait se faire jour dans ces lieux. Et ben, cette symbolique, elle est inaudible pour beaucoup de gens, parce que ils pensent que, d'une part, comment est-ce que j'ai pu faire ces conclusions? Ben, pourtant, c'est pas moi qui ai inventé les mots de kamikaze et de rentier. C'est les gens qui m'en ont parlé eux-mêmes et j'ai simplement montré à quoi ça leur servait de se nommer comme ça.
Et en sachant que vous avez aussi recueilli le on et le off.
Voilà. J'ai fait parler les silences. J'ai fait parler les non-dits. J'ai essayé de comprendre ces façons dont ils ont de se mettre en arrière de ce qu'ils font, et pour pouvoir dire je fais toujours ce qu'on me dit de faire, mais au fond je sais ce que je fais et je peux aller un tout petit peu au-delà, je peux essayer vraiment d'être plus fort que cette radioactivité qui m'entoure et qui peut-être va me détruire un jour ou l'autre. Donc voilà, tous ces mots-là, toutes ces façons de faire, toutes ces façons de dire, je pense qu'on ne voulait pas l'entendre.
Et alors tous ces incidents ou accidents, c'est selon qu'on en parle dans les médias, avec donc pointé du doigt la non-communication, vous avez été confronté à ça vous aussi? Par exemple, on parlait des personnes contaminées, des travailleurs, est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus?
Non, je pense que on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Bien entendu, les seules personnes qui ont refusé de me répondre, c'était les médecins de l'usine. Ils se sont bien sûr retranchés derrière le secret professionnel, et donc on n'a jamais pu savoir. Et c'est vrai que on sait très mal ce qui se passe d'un point de vue épidémiologique à La Hague. L'enquête du professeur Veil, comme vous l'avez dit, a été extrêmement mal reçue, et il y a eu une commission qui a été mise en place et qui a montré que le professeur Veil avait parfaitement travaillé et que effectivement il y avait peut-être un léger surplus de leucémie à La Hague, mais on ne sait toujours pas pourquoi, parce que on n'a pas voulu vraiment travailler jusqu'au bout des choses.
Le professeur François Viel de l'INSERM, qui avait publié donc le 11 janvier 1997 cette étude sur les leucémies infantiles autour de l'usine, et a publié dans le British Medical Journal. Et effectivement, un chercheur de renom. Est-ce que vous avez le sentiment, Françoise Zonaben, que 30 ans après Tchernobyl, 5 ans après Fukushima, laboratoire grandeur nature, justement, de ce qui peut peut-être se passer un jour chez nous. C'est vrai qu'on parle de Fessenheim qui inquiète. L'EPR, nouvelle génération, pose des problèmes d'anomalie. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est entré enfin dans une réflexion générale sur cette ère des catastrophes?
Non, je ne pense pas. Je pense que la façon dont on va utiliser effectivement Tchernobyl ou Fukushima comme laboratoire de recherche, mais pour savoir comment faire après une catastrophe. Mais pour autant, on restera toujours avec l'idée, tant que on utilisera le nucléaire, que on peut très bien l'utiliser en prenant toutes les précautions et ne pas arriver justement jusqu'à ces catastrophes. Le problème de ces catastrophes, c'est qu'on va toujours leur trouver soit une origine humaine. À Tchernobyl, c'est la faute des techniciens qui n'étaient pas assez bien formés. Et à Fukushima, c'est la nature. Mais dans un cas comme dans l'autre, d'abord, on pouvait former mieux les techniciens soviétiques, ce qu'on n'a pas fait, mais ça coûtait trop cher, sans doute. Et quant à Fukushima, si on avait écouté les scientifiques qui disaient à cet endroit où vous avez implanté une centrale, il peut y avoir des tsunamis, et des tsunamis qui vont être beaucoup plus hauts que la digue que vous avez faite et qui mesure 6 mètres, et ils peuvent avoir jusqu'à 15 mètres. Donc faites une digue beaucoup plus haute. ce que les gens de Fukushima ont refusé parce que c'était trop cher et que on n'avait encore jamais vu un tsunami aussi important à cet endroit-là.
Donc c'est toutes ces questions, hein, ces choix de politique énergétique aujourd'hui, parce que au-delà des catastrophes, d'ailleurs Françoise Onaben, il faut quand même dire que, en étant objectif bien évidemment, l'homme a engendré un processus sans fin. Les déchets ne s'éliminent pas. Il faut les retraiter. Les déchets des déchets restent dangereux et pour des
millénaires.
Voilà, oui. On en est là. Et d'ailleurs, j'ai relevé dans votre livre que quelqu'un sur place vous a dit on laisse de sacrées merdes pour l'avenir. Texto. Et il y a cette prise de conscience quand même. Sur place. Et ce silence, hein, qui vaut déni du risque, est toujours donc inscrit dans les mentalités. Ce sera la conclusion de cette première partie.
Oui, je pense qu'effectivement, on peut conclure toujours sur ce déni du risque et sur ce silence qu'engendre le nucléaire.
Merci à vous. Vous restez avec nous, hein, parce que la suite de la marche des sciences va vous intéresser. On va partir sur le thème justement de l'après-catastrophe. Mais je rappelle auparavant le titre de votre livre, La presqu'île au nucléaire, réédité chez Odile Jacob.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire, avec toujours cette thématique risque, catastrophe et nucléaire, et la question de l'après-catastrophe. Quelles conséquences pour l'environnement et le monde du vivant, végétal et animal? Bonjour Christelle Adam-Guillermin. Vous êtes directrice du laboratoire d'écotoxicologie des radionucléides à l'IRSN, hein, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et donc, vous menez, vous et les membres de votre laboratoire, des recherches sur les effets, justement, de la radioactivité sur l'environnement. Alors, partons peut-être d'abord sur vos deux terrains de recherche, hein, Fukushima, Tchernobyl. Alors, Tchernobyl, depuis 2011, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Nous avons mené plusieurs études sur Tchernobyl. On a commencé ces études il y a environ 4 à 5 ans et on s'est intéressé à différents paramètres qui sont relatifs au fonctionnement et à la structure des écosystèmes. Donc nous avons notamment surveillé l'abondance et la diversité de petits vers millimétriques qui sont des nématodes qu'on peut trouver au niveau des sols et qui sont utilisés communément comme un indice de la pollution des sols. Donc nous avons pu aller prélever sur 18 stations dans la zone d'exclusion de Tchernobyl ces petits vers et nous avons étudié l'effet de la radioactivité sur la diversité et le nombre d'individus dans les différentes populations. Alors nous n'avons pas pu mettre en évidence un impact notable de la radioactivité sur ces paramètres de diversité et d'abondance des nématodes. Toutefois, nous avons vu qu'il y avait assez peu d'espèces sensibles en présence dans nos prélèvements. Donc on suppose que les espèces en fait les plus sensibles ont été éteintes hein, suite à l'accident. Et en fait, on est en présence d'espèces les plus résistantes, donc qui se seraient adaptées plus facilement à la radioactivité, ce qui expliquerait le peu d'effets qu'on observe aujourd'hui, 30 ans après l'accident.
Et oui, et donc c'est la théorie de Darwin hein, qui a joué à plein, on peut dire, hein, l'évolution et l'adaptation à l'environnement. Et en même temps, est-ce que vous aviez, pour pouvoir comparer, des éléments d'études avant la catastrophe? Non, finalement.
Alors c'est ça toute la difficulté de ces études-là, hein, c'est que on est sûr que après l'accident, immédiatement après l'accident, il y a eu des effets aigus, donc de mortalité différentes espèces. Donc on voit notamment la forêt rousse, hein, qui est bien connue, qui était une forêt de pins, qui était située juste sous la plume en fait du nuage à proximité de la centrale, où les pins sont morts. Donc en fait on voit encore à l'heure actuelle des malformations sur ces pins. Mais c'est vrai qu'on a peu de données au temps zéro ou avant l'accident qui permettraient de mettre en évidence justement un effet adaptatif au fil des générations. Et c'est toute la difficulté de ces études-là qui sont menées sur du long terme et qui doivent prendre en compte tous ces paramètres très subtils d'évolution et d'effets indirects.
Alors vous disiez, Christelle Adam-Guillermin, que sur les pins, on voit, on note hein, des anomalies de croissance et de développement. En même temps, par exemple, on n'en voit pas sur les bouleaux.
Alors effectivement, il y a en fait une question qui est très importante à l'heure actuelle en radioécologie, donc ce qu'on étudie, c'est la question de la radiosensibilité des espèces. Et on a pu montrer, sur la base de toutes les études réalisées, que cette radiosensibilité des espèces varie sur 4 ordres de grandeur. Et donc il y a vraiment des paramètres biologiques qui font que certaines espèces sont plus sensibles que d'autres. et notamment, bah, ne serait-ce que chez les arbres, entre un pin et un bouleau, on n'a pas du tout la même sensibilité. Alors, on travaille à l'heure actuelle pour essayer de mieux comprendre quels sont les paramètres qui influencent cette radiosensibilité. Parmi les paramètres, on sait qu'il y a un effet sur l'ADN, en fait, notamment la taille du noyau, qui pourrait être un paramètre important, puisque plus l'organisme va disposer d'un noyau petit, et moins il aura de chance, en fait, de que son ADN soit atteint par la radioactivité. Donc ça pourrait être un des paramètres, mais ce n'est pas le seul, évidemment.
Alors, à Fukushima, vous êtes présente donc sur le terrain depuis 2012, avec des études sur les oiseaux. Avant d'en parler, je voulais vous poser la question quand même. Quand vous travaillez sur zone, vous avez un système de protection, parce que les radiations sont là?
Tout à fait. Alors, évidemment, en fait, on n'y va pas au hasard. Hein. On est suivi à l'Institut, on a justement des services qui s'occupent de ça. Donc on y va avec de la dosimétrie embarquée qui nous permet à la fois de mesurer la dose externe sur le terrain et puis également notre dose à nous. Et puis bon, en fonction des endroits où on va, on peut se protéger en rajoutant des gants, des masques, etc.
Alors donc à Fukushima, étude sur les oiseaux, le constat c'est le constat d'un déclin des populations, hein, on peut le dire, et donc un effet sur la reproduction, mais à l'inverse par exemple, si on regarde du côté des mulots, eh bien là, pas de problème particulier parce que eux développent des antioxydants.
Alors ça a été avéré à Tchernobyl, hein. C'est vrai que chez différentes espèces, étonnamment des espèces comme les mulots vivent au contact du sol puisqu'ils font leur terrier dans les sols. Et donc, on sait que les sols sont un puits de la contamination, puisqu'elle va se déposer sur le sol et rester dans les premières couches du sol. Étonnamment, sur les mulots, il a été montré sur des expérimentations multigénérationnelles qu'il y avait peu d'effets chez ces mulots et que ça pouvait être effectivement dû au fait qu'il y avait une défense antioxydante, donc contre les radicaux libres générés par la radioactivité, plus importante chez ces mulots. En revanche, chez les oiseaux, sur Fukushima, on a pu montrer en analysant des données acquises sur l'abondance et la diversité des espèces qu'il y avait effectivement un déclin des populations d'oiseaux. Donc ça a été montré sur 57 espèces d'oiseaux qui ont été analysées dans la zone de Fukushima à partir d'écoutes de chants d'oiseaux. Donc qui donne en fait des informations très riches, hein, sur l'abondance et puis la diversité des espèces. Et on a pu montrer effectivement que le déclin de ces populations d'oiseaux était avéré et de surcroît qu'il était dû à la dose absorbée par ces oiseaux. Donc c'est vrai que ces études sont relativement complexes parce qu'il y a pas mal de facteurs confondants qui font que c'est souvent difficile de montrer un effet vraiment attribuable exclusivement à la radioactivité.
Donc un effet direct.
Voilà, un effet direct. Il peut y avoir des facteurs confondants, et par exemple dans les zones d'exclusion, il y a un abandon des zones puisqu'elles sont évacuées par l'homme, et ça peut être un paramètre qui pourrait être un effet indirect, puisque du coup on a une diminution de la chasse, donc une diminution de la prédation par l'homme, un changement aussi de la compétition d'autres espèces qui peuvent augmenter et devenir d'autres prédateurs, pour donc, dans ce cas-là pour les oiseaux. Mais c'est un paramètre en fait qu'on a pu prendre en compte dans les études qui ont été réalisées sur le déclin des populations d'oiseaux, et on a montré effectivement que toujours après la prise en compte de ce paramètre-là, la dose absorbée par les oiseaux était encore un facteur plus important que l'évacuation des populations humaines.
Alors tout ça montre la difficulté de votre travail, de ces études sur le terrain, Christelle Adam-Guillermin, et l'attribution aussi exclusive à la radioactivité qui n'est pas toujours évidente, d'où ça explique effectivement les controverses qu'on voit surgir ici et là, c'est-à-dire des scientifiques qui disent oui, il y a des effets, et puis d'autres qui contestent un petit peu.
Absolument, donc c'est vrai que c'est, de toute façon, c'est une étude au sens large d'écotoxicologie est une science qui est relativement complexe parce que ce soit pour le nucléaire ou pour d'autres polluants comme les pesticides ou des métaux, des polluants organiques, en fait, quand on est dans l'environnement, on est face à un cocktail de stresseurs, Donc, par exemple, la radioactivité ne vient pas seule. Il peut y avoir aussi des hydrocarbures. Il peut y avoir tout un tas de facteurs qui font qu'on prend en compte l'effet de ce cocktail, hein, de ces mélanges de polluants.
Et oui, parce qu'il faut juste rappeler qu'à Tchernobyl, par exemple, du plomb a été déversé par les autorités ukrainiennes pour étouffer l'incendie. Puis il y avait aussi les pesticides pulvérisés à haute dose, hein, juste après l'accident, afin d'élimiter les plantes irradiées. Donc tout ça, ça fait des cocktails qui engendrent des anomalies génétiques.
Voilà, donc après, on est non seulement en face de l'effet des cocktails, on est également en face d'effets des faibles doses, puisque évidemment, tout de suite après l'accident, on a des doses importantes, mais en fait, ça diminue au fil du temps. Et puis, évaluer l'impact sur les écosystèmes, ça veut dire évaluer l'impact sur tout un ensemble de populations, avec des interactions complexes de proies prédateurs entre ces populations. Donc effectivement, la réponse en termes d'effets sur l'environnement est toujours complexe, qu'on soit dans le domaine du nucléaire ou dans le domaine des chimiques stables.
D'où l'importance du travail en laboratoire que vous menez, hein, qui permet de limiter ces facteurs confondants, comme on dit, et de mieux comprendre les mécanismes. Donc un travail en milieu contrôlé, avec des doses délivrées et que l'on gère, et pour une étude vraiment plus scrupuleuse.
Tout à fait. Donc en laboratoire, en fait, on essaye de faire des études beaucoup plus ciblées. Donc on travaille en général avec des organismes modèles dont la génétique est tout à fait connue, pour lesquels on dispose de tout un tas d'outils. Et puis on va exposer en fait ces organismes en laboratoire à des doses croissantes de radioactivité et on va essayer de mettre en évidence des effets à partir de certains seuils. Donc les études qu'on mène au laboratoire sont centrées principalement sur l'étude des dommages à l'ADN et du lien entre ces dommages à l'ADN et puis des effets plus généraux sur la reproduction, le développement, etc.
Ah oui. Alors, dernière question rapide, Christelle Adam-Guillermin. Est-ce que, du coup, vous travaillez aussi sur cette réparation possible de l'ADN? Puisqu'on voit que dans le vivant, dans ce monde du vivant, végétal ou animal, il y a des espèces qui ont développé des antioxydants et finalement qui se sont protégées. Est-ce que des recherches sont en cours?
Oui, absolument. C'est un paramètre qu'on regarde. Et notamment, nous avons mené des études transgénérationnelles sur des micro-crustacés et des invertébrés, où on a pu montrer que, en fait, le paramètre de réparation d'ADN était un paramètre crucial. Et notamment, on a mis en évidence que les cassures double brin à l'ADN, qui sont des cassures donc qui ont lieu sur les deux matrices de l'ADN, sont des cassures qui sont difficilement réparables et qui peuvent être corrélés avec un effet transgénérationnel et un maintien d'une diminution de la reproduction au fil des générations chez ces microcrustacés.
Eh bien, merci à vous, hein, Christelle Adam-Guillermin. On suivra, bien sûr, tenez-nous au courant, on suivra vos recherches. Et puis, je rappelle que vous êtes donc directrice du laboratoire d'écotoxicologie des radionucléides à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et c'est la fin de la Marche des sciences. Merci de nous avoir suivis. Émission préparée avec Catherine Donnet, Anaïs Morales pour les archives. Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations, les liens sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des sciences. Vous pouvez réécouter l'émission autant que vous voulez, la télécharger de la même manière, nous suivre sur Twitter et sur la page Facebook. Et merci à Alexandra Malka, à la réalisation, à la technique Edouard Rubinstein. La semaine prochaine, focus sur le plus célèbre des dinosaures, le T-Rex. Pour mieux en comprendre le succès et l'ascension, nous serons dans un autre monde, un autre univers, avec le paléontologue Jean Leleuf. Et puis, n'oubliez pas, demain, autre rendez-vous de Culture Science à ne pas rater à 16h, avec Michel Albaganti et Sciences Publiques qui continuent ce thème du nucléaire. Et puis, dans un instant, à 17h, c'est la suite de vos programmes sur France Culture avec Hervé Gardette. Belle journée à vous.